On va parler de la Maison des Aidants avec Solène Évrard, qui est psychologue de la Maison des Aidants de la ville de Nantes. Les proches des personnes donc atteintes de la maladie d'Alzheimer sont hyper investis, on l'a vu, et sursollicités, au risque de finir par s'épuiser. On a vu ce que c'était qu'un burn-out. Et plus de 70% des personnes atteintes par la maladie restent à domicile. Et si justement les patients peuvent rester dans leur environnement familier, c'est grâce à leurs proches. Leurs proches ont parfois du soutien, de l'aide, et c'est tout le rôle de la Maison des Aidants que va nous expliquer Solène Évrard.
Bonjour à tous et merci de votre attention. Comment ça marche? Donc du coup, moi, je vais surtout vous parler de la prévention. Alexandra vous a expliqué un petit peu comment ça se passait le burn-out, les premiers signes, comment peut-être être alerté par certains symptômes. Nous, on va essayer de parler du coup d'un peu des outils de prévention. On va voir des choses qui sont peut-être assez simples. En fait, moi, quand on regarde un petit peu les études, il y en a de plus en plus qui s'intéressent à l'épuisement des aidants, au syndrome de fatigue chronique, de burn-out aussi chez les aidants. C'est vraiment un terme qu'on emploie maintenant dans la sphère de l'aidant. C'est plus simplement dans la sphère professionnelle, on va retrouver trois piliers principaux de la prévention pour éviter de sombrer dans l'épuisement. Les trois piliers, ça va être le repos, la délégation des tâches et puis également l'accompagnement des aidants. Alors encore une fois, ça peut paraître évident, ça peut paraître simple, mais ça n'est pas tant que ça quand on est aidant, d'arriver à accéder à des moments de repos, d'arriver à déléguer, à prendre du relais, à se faire accompagner aussi. Quand on parle de repos, il va vraiment s'agir d'arriver à se reposer de son rôle d'aidant. C'est pas forcément simplement de récupérer du sommeil, de récupérer de la détente à travers des activités reposantes. On peut tout à fait se reposer avec des activités plus dynamiques, mais c'est simplement de sortir à un moment donné de sa situation d'aidant, arriver à s'extraire de ce rôle. Donc ça peut passer par quelques heures de répit, quelques jours, quelques semaines, selon les situations. Et ça a l'air simple à dire, mais on sait très bien que c'est pas si simple que ça à faire pour les aidants de prendre ce repos-là. Mais c'est vraiment un pilier essentiel pour pouvoir récupérer de l'énergie. Ce repos, il va souvent nécessiter une séparation, au moins temporaire, avec le proche. Et souvent, il va entraîner aussi un besoin de délégation des tâches. Puisqu'évidemment, alors dans la maladie d'Alzheimer particulièrement, ça peut paraître compliqué de pouvoir prendre du temps pour soi quand on est aidant, sans penser à une solution d'accompagnement pour son proche. Donc on va vraiment insister sur cette notion de délégation de certaines tâches. Alors évidemment, on en est conscient en tant que professionnel aussi, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas déléguer. Notamment, il restera toujours une part de charge mentale pour les aidants dans l'organisation du planning, dans la coordination des différents intervenants. C'est toujours des choses qui sont difficilement transférables à d'autres personnes, que ce soit les professionnels ou la famille, les proches. Mais déjà, pouvoir se faire décharger un petit peu, se faire aider sur des tâches très concrètes d'aide à la personne ou pour les courses ou pour le ménage, etc. Ça permet quand même d'alléger un petit peu la tâche. Et puis, donc, on disait le troisième pilier, ça va être l'accompagnement. L'accompagnement, en fait, des aidants, ça va vraiment... Alors, ça peut être l'accompagnement psychologique, dont Alexandra vous a parlé. Ça peut être un accompagnement social aussi ou psychosocial. Ça peut se faire de manière individuelle, ça peut se faire de manière collective à travers des rencontres aussi avec des pairs, PAIRS, d'autres aidants avec qui vous pouvez échanger, partager. Ça va permettre souvent de pouvoir identifier les freins. Identifier les freins qui vont empêcher la mise en place d'aide, le répit, identifier aussi les difficultés à assumer des fois le rôle d'aidant et aussi surtout à poser des limites dans son rôle d'aidant. Et puis ça va aussi avoir une fonction de réguler les émotions. On va voir que les émotions, c'est souvent ce qui vient parfois contrarier la relation avec le proche, rendre le quotidien très difficile. Donc avoir cette soupape un petit peu de paroles, d'activités, d'échanges avec d'autres, ça va permettre de réguler un peu ces moments-là. Alors moi, je voulais vous présenter un exemple concret. Je vais essayer d'être dans le concret à chaque fois pour vous parler de comment on peut prévenir l'épuisement. Et donc nous, à la Maison des Aidants, on a mis en place donc pour la première fois au printemps dernier une formation de prévention de l'épuisement où on a repéré comme ça plusieurs outils qu'on peut utiliser après dans son quotidien d'aidant. Les objectifs de cette formation, c'était déjà de mieux comprendre ce qu'est l'épuisement, ce qu'est le syndrome d'épuisement de l'aidant, de pouvoir identifier, repérer personnellement où on en est dans sa situation, et puis évidemment de trouver des clés pour se faire accompagner. Donc c'est une formation qui a pu bénéficier à 10 participantes, c'était que des femmes qui se sont inscrites, 6 conjointes, donc qui accompagnaient un mari avec une maladie neuroévolutive, et puis il y avait également 3 filles qui accompagnaient donc une maman âgée et malade, et puis même une petite fille qui était l'aidante principale de sa grand-mère. Donc on s'est retrouvés pour 4 séances sur cette formation. La première séance, c'était vraiment comment identifier les situations dans lesquelles on est en tant qu'aidant. Puisqu'évidemment, quand on est aidant, il y a beaucoup de fatigue, et c'est normal. La fatigue, elle est logique dans la situation des aidants où il y a une charge physique et mentale importante. Mais comment identifier le moment où on passe de la fatigue normale au moment où on passe vraiment dans l'épuisement? Donc il y a tout un travail à réfléchir pour comment connaître ses limites finalement, comment repérer les symptômes pour soi. Donc on a utilisé quelques outils dont je vais vous parler vraiment très brièvement, notamment une échelle de l'aidant qu'on va diffuser assez largement aussi, que vous pouvez retrouver sur notre stand, qui permet, alors c'est une échelle qui a été faite un peu sur le modèle du violentomètre pour les violences conjugales, les violences faites aux femmes, où en fait ça vous permet en quelques affirmations de vous situer un peu, savoir si vous êtes plutôt dans le vert, dans le orange ou dans le rouge, et pour savoir si évidemment vous avez besoin d'une aide, d'un accompagnement, et plus vous êtes dans le rouge, évidemment, plus vous pouvez avoir besoin d'une aide. Donc c'est un petit outil assez simple d'utilisation qui a été fait par la MSA et le réseau Bulder, qui est un réseau de répit qui permet comme ça aux aidants de s'identifier. Au cours de cette formation, on a aussi utilisé le carnet des aidants, qui est un carnet fait par le département de Loire-Atlantique, où là aussi vous pouvez retrouver un petit peu des échelles pour vous situer, le baromètre de la fatigue, les échelles du stress, les échelles de l'aidant aussi, avec beaucoup aussi des conseils, des informations sur comment avoir bénéficié de répit. Et puis je voulais vous parler aussi d'un site qui s'appelle J'aide, je m'évalue, qui est fait par la Fondation France Répit, qui permet aussi, à travers quelques questions, de pouvoir se situer et pouvoir avoir des conseils personnalisés. Donc tout ça, ce sont des petits outils que vous pouvez évidemment utiliser, vous approprier. Et évidemment, je redis à ce moment-là aussi que rien ne vaut non plus un accompagnement individuel pour repérer votre situation, que ce soit à la maison des aidants, que ce soit dans les consultations de psychologie dont Alexandra parlait, ou avec d'autres partenaires, de pouvoir faire le point sur votre situation, de pouvoir expliquer là où vous en êtes, ça peut aussi vous aider à vous repérer dans vos symptômes et savoir si vous êtes déjà dans cette situation d'épuisement. La deuxième séance, c'était vraiment autour de la compréhension des mécanismes de l'épuisement chez les aidants. C'est ce qu'on avait intitulé la séance comprendre, en fait. Comprendre comment ça arrive, qu'est-ce qui va venir peser comme facteur sur les aidants. Alexandra en a parlé un petit peu, les facteurs qui vont déterminer, prédisposer en fait aux situations d'épuisement. Nous, on a travaillé un peu dans cette séance sur à la fois des facteurs extérieurs. On sait qu'on est plus à risque d'épuisement quand la situation du proche s'aggrave, notamment en termes de perte d'autonomie. Quand il y a des symptômes spécifiques comme la désorientation, l'agressivité, les troubles du comportement, ce sont des situations où il va y avoir un sur-risque d'épuisement de l'aidant. Et puis évidemment, un autre facteur extérieur à l'aidant qui va être prédominant, c'est l'isolement. Quand l'aidant est vraiment seul dans sa situation, qu'il ne peut pas compter sur du soutien familial ou amical ou professionnel, ça augmente le risque de se retrouver dans des situations d'épuisement. Mais dans cette séance, on a aussi évoqué des facteurs plutôt personnels, internes aux aidants, qui peuvent aussi prédisposer certaines personnes au risque d'épuisement. Un peu comme pour le burn-out professionnel, on a repéré que certaines typologies de travailleurs pouvaient être plus à risque de développer un burn-out. Et c'est pareil chez les aidants. On retrouve certains traits de personnalité qui vont être plus sensibles, pour cet épuisement. Notamment la tendance au perfectionnisme. Les aidants qui veulent trop bien faire, je vois que ça fait sourire certains, vouloir trop bien faire, vouloir que tout soit parfait, ne pas s'autoriser l'échec ou l'imperfection, ça va être quelque chose de très fort pour certains aidants et ça va conditionner parfois au syndrome d'épuisement. La difficulté à déléguer, on en a parlé, mais vouloir tout faire tout seul, vouloir tout assumer, tout porter, se sentir comme ça seul, responsable de la situation, ça va aussi être un trait de personnalité qui va conduire souvent à l'épuisement. Et puis, il y a aussi la difficulté, pardon, en termes de personnalité, c'est la tendance à culpabiliser. Hein. Les aidants qui vont souvent se sentir responsables et même surresponsables, qui vont porter la responsabilité de tout ce qui se passe pour leurs proches, de leurs émotions, de leurs humeurs, de tout ce qui peut arriver, du contexte. Hein. Les aidants qui vont être comme ça en surresponsabilité. Et du coup, la combinaison de ces traits de personnalité, hein, le perfectionnisme, la difficulté à demander de l'aide, le fait de culpabiliser, de se sentir responsable, ça va souvent amener les aidants à être dans un hyper-investissement, hein, hyper-investissement auprès de leurs proches, où ils vont vouloir être beaucoup dans le contrôle, que tout se passe toujours comme ils le voudraient, de ne pas accepter l'incertitude hein, qui est propre évidemment à ces situations. Et ça peut conduire évidemment à un épuisement. Surtout que plus on s'investit, plus on a besoin en retour hein, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir des résultats, d'avoir des gratifications hein, pour pouvoir continuer à nourrir cet investissement, ce moteur-là. Et évidemment, dans les situations où il y a des maladies comme la maladie d'Alzheimer, et ben on peut se retrouver parfois avec un manque de retour hein, à la fois de la personne, à la fois de l'entourage, même parfois des professionnels. Donc on peut se sentir comme ça investi et sans avoir de retour, et ça va créer évidemment la dépendance. Donc on a travaillé ça dans cette séance, et c'est quelque chose que parfois les aidants peuvent aussi travailler. C'est la petite image que j'avais mise, hein, c'est de sortir de cette posture qu'on adopte parfois ou que les autres hein, veulent aussi nous faire adopter parfois, de super aidant, hein, la personne qui va gérer tout toute seule. On a parlé ensuite dans cette formation de l'acceptation des émotions, hein, le travail sur les émotions, parce qu'on sait évidemment que dans le parcours d'un aidant, dans le quotidien d'une relation aidant-aidée, eh bien, il y a beaucoup d'émotions qui sont vécues souvent intensément. Hein, il y a de la peur, il y a de la colère, il y a de la tristesse. Et puis, il y a évidemment cette émotion dont nous parlent tous les aidants hein, en consultation psychologique à la maison des aidants, la culpabilité, hein, le sentiment de culpabilité, le sentiment parfois d'abandonner son proche dès qu'on s'autorise un peu de temps pour soi, etc. C'est quelque chose qui est souvent très très fort chez les aidants. Donc on a évidemment décortiqué un peu les mécanismes derrière hein, ces notions de culpabilité, et puis on a utilisé alors une petite grille d'analyse que moi j'aime beaucoup, qui est issue d'un ouvrage québécois hein, où on va essayer de repérer un peu ce qui appartient, alors c'est moi, toi et le contexte, hein, qu'est-ce qui m'appartient à moi, hein, quelles sont mes émotions à moi, les choses sur lesquelles je peux agir hein, ce qui dépend vraiment de moi. Ce qui dépend de l'autre, hein, le toi, et parce que évidemment vous ne pouvez pas être responsable de tout ce qui se passe pour votre proche. Donc voilà, qu'est-ce qui dépend de lui, de sa personnalité, de son caractère, de son acceptation ou pas aussi, hein, des aides que vous pouvez proposer. Et puis qu'est-ce qui revient au contexte finalement, hein, la situation qui est souvent bah, plus forte hein, que les aidants qui pèsent sur elle et sur lesquels souvent ils n'ont pas de prise non plus. J'avance assez rapidement, hein, mais on a aussi évidemment parlé de mobiliser les ressources disponibles. Donc on a beaucoup parlé des aides. Hein. Alors normalement, j'avais aussi des petites diapos qui s'affichaient là, enfin des petites images. Mobiliser les ressources, c'est comment on peut accéder hein, à des temps de répit, à des temps de repos, comment on peut trouver de la délégation, de l'aide. Donc on a parlé par exemple du répit au domicile, hein, le fait de faire venir quelqu'un pour une stimulation individuelle, les services de relayage, hein, comme votre second souffle qui va venir prendre le relais parfois pendant plusieurs jours auprès de la personne aidée. On a parlé de tout ce qui va permettre une stimulation aussi à la personne aidée à l'extérieur du logement, comme les accueils de jour, comme la halte répit, en pointant aussi le fait que c'est aussi une chance, ces moments de séparation, hein, c'est aussi une respiration pour l'aidant évidemment, mais c'est aussi une chance pour la personne aidée d'être stimulée un peu différemment, d'avoir d'autres interactions, de voir d'autres personnes, ça aère la relation en fait pour les deux, hein, ça permet de sortir de ce huis clos un petit peu étouffant. Donc on a aussi parlé par exemple des séjours de vacances hein, qui sont un peu un compromis avec des moments où vous êtes quand même ensemble, vous partez ensemble et en même temps vous pouvez avoir des moments un peu de séparation, de respiration. Surtout dans cette séance, et c'est le message aussi qu'on aime faire passer à la maison des aidants, c'est qu'en fait il y a une pluralité de possibilités hein, d'aide. On entend bien parfois beaucoup de freins pour accéder à ces services, on sait que les services ne sont pas toujours parfaits, que ce n'est pas toujours simple d'y accéder, mais il y a quand même une pluralité de services, d'aide, de structures qui existent pour pouvoir à chaque fois trouver quand même quelque chose qui peut vous correspondre. Tout au long de la formation, on a aussi parlé beaucoup de ce qu'on peut mettre comme ressources internes. Hein, qu'est-ce qu'on peut développer quand on est aidant, quand on se sent flanché, quand on arrive dans la fatigue, dans l'épuisement. Bah, qu'est-ce qu'on peut travailler sur soi-même hein, pour pouvoir accéder et, à un mieux-être hein, et éviter ces situations d'épuisement. Donc, au cours de la formation, on a expérimenté hein, des petits temps de cohérence cardiaque, par exemple, ou de relaxation, ou tout simplement de respiration, d'auto-hypnose. Hein, on a tester comme ça plusieurs pratiques. Ça, c'est un volet de nos activités à la Maison des aidants qui est assez important, hein, tout ce qu'on appelle bien-être, ressourcement, parce qu'en fait, ce sont des outils qui peuvent être concrets ensuite, hein, dans les situations où il y a de la tension à la maison, où il y a des conflits, ça peut être des outils qu'on peut réutiliser. Alors le bilan, évidemment, il était très positif hein, pour les personnes qui ont pu y participer. Je vous ai mis quelques petites phrases, des résumés, des questionnaires de satisfaction hein, des participantes. C'est une formation qui permet aussi, évidemment, beaucoup d'échanges entre les personnes qui vivent les mêmes situations. Et ça, c'est aussi un axe qu'on développe énormément à la Maison des aidants parce qu'on sait à quel point c'est précieux. En tant que professionnel, on va souvent vous donner des conseils, vous informer, vous écouter. Mais on voit bien que rien n'est plus pertinent souvent pour les aidants que la parole d'un autre aidant qui a traversé les mêmes épreuves, qui connaît vraiment le même quotidien et qui peut parler en son expérience hein, des structures ou des services de répit qu'il a pu mettre en place. Donc pour vous dire que voilà, cette formation, on va sans doute, on va même très certainement la reproduire et notamment dès début 2025 parce qu'on sent qu'il y a vraiment un vrai besoin pour les aidants de travailler sur cette question de prévenir l'épuisement. Et puis donc pour terminer, avant qu'on puisse avoir un temps de questions-réponses hein, sur toutes les interventions qui ont pu avoir eu lieu, hein, quelques ressources utiles aussi par rapport à l'épuisement. Donc il y a l'association France Alzheimer, hein, donc ils sont présents aujourd'hui l'association locale, mais il y a aussi le site internet national de France Alzheimer qui a pas mal de ressources, notamment des podcasts. Hein, c'est assez nouveau, mais des podcasts et notamment un sur l'épuisement de l'aidant, hein, justement avec la venue justement des autrices québécoises dont je vous parlais pour la grille d'analyse là, de la culpabilité. Donc c'est vraiment voilà, des ressources comme ça que vous pouvez utiliser de manière libre. Hein. Il y a l'Association française des aidants aussi, qui est une association évidemment ressources, et qui propose hein, ce qu'on appelle la formation des aidants. Hein, et j'en parle justement parce que nous, à la Maison des aidants, on la met en place très régulièrement, hein, tous les ans, plusieurs fois par an. Et il y a notamment une session qui démarre la semaine prochaine, hein, qui est une session de formation de 6 modules pour aider justement les aidants à questionner leur rôle, à poser leurs limites, à savoir jusqu'où aller. On a parlé beaucoup de santé aussi avec Alexandra, comment préserver sa santé. Donc, je voulais dire un mot du centre de prévention Bienveillir de l'AGICARCO, hein, qui est aussi un outil qui peut être intéressant pour les aidants, où les aidants peuvent aller faire des bilans hein, avec un médecin, avec une psychologue. Et il peut y avoir des ateliers ensuite proposés spécifiquement sur la santé des aidants, hein, sur le sommeil, sur la gestion du stress, la gestion des émotions aussi, la diététique même. En termes de ressources, évidemment, vous avez le site aidant44.fr de l'UDAF, qui est une sorte d'annuaire hein, qui va recenser toutes les actions d'aide aux aidants sur le territoire de la Loire-Atlantique. Hein, si vous cherchez une formation, un groupe de parole, si vous cherchez aussi une structure de répit, hein, un endroit où vous pouvez confier votre proche, eh bien, vous pouvez aller sur ce site pour avoir toutes les informations. Et puis, donc, juste pour terminer, une dernière ressource, parce que c'est aussi un événement qui va se passer là prochainement, c'est le docteur Hélène Rossineau, qui est médecin et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Ma famille, mon job et moi », qui va plus s'adresser en fait aux aidants en activité professionnelle, qui sont aussi nombreux hein, et qui doivent concilier un peu tout leur rôle, hein, le rôle de salarié, le rôle d'aidant à la maison, leur vie de famille également. Hein, donc, elle a écrit un ouvrage plein de conseils pratiques hein, sur comment s'en sortir en fait avec toutes ces dimensions de son existence. Et puis, elle va venir prochainement dans le cadre du mois des aidants hein, que la ville de Nantes organise avec différents partenaires sur l'agglomération. Donc, elle sera le 25 octobre à Carquefou pour une conférence et ensuite un temps échange. Donc si ces questions-là, notamment pour les aidants actifs, hein, de conciliation de ces différents rôles vous intéressent, vous pourrez nous retrouver à cette occasion le 25 octobre. Et puis donc nous, on reste disponible. Donc la Maison des aidants, hein, très rapidement, c'est un service de la ville de Nantes, mais qui s'adresse à tous les habitants de la métropole nantaise hein, et qui propose à la fois du soutien psychologique, du soutien social, des actions collectives, hein, des accompagnements comme ça entre pairs, d'activités bien-être, formation, groupe de parole, séjours de vacances également. Et puis on a aussi une halte répit, hein, un service de répit qui permet d'accueillir le proche quelques heures pour offrir justement ces temps de respiration aux aidants. Je vous remercie de votre attention et puis je pense qu'on va passer maintenant aux questions-réponses.